Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique, au micro Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Les grands points de l'actualité au Kenya, remaniement ministériel et changement à la tête de la police suite à un nouveau massacre attribué aux Shebab somaliens.
Burkina Faso, des victimes du soulèvement populaire d'octobre élevées au rang de martyrs de la République, mais à quand le mot du droit ?
C'est vrai que c'est une insurrection, mais on peut aussi quand même regarder les circonstances. Et s'il y a des responsabilités établies, à situer, on ne doit pas hésiter à le faire.
Reportage à suivre de notre correspondant à Ouagadougou.
En France, les députés invitent le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. La résolution a été votée aujourd'hui.
Nous reviendrons sur l'affaire Floribert Chebeya en République démocratique du Congo.
Et nous aurons les sports et la musique, bien sûr, en fin d'émission. Mais d'abord, le journal. Le président kényan Uhuru Kenyatta a limogé le ministre de l'Intérieur et le chef de la police après un nouveau massacre perpétré par les islamistes somaliens Shebab Idriss Fall.
Le président Kenyatta a annoncé le limogeage de Joseph Ole Lonku et son remplacement par Joseph Nkai Seri comme ministre de l'Intérieur. Il a mis à la retraite anticipée David Kimayo, le chef de la police. Les deux hommes étaient sur la sellette suite à de nombreuses attaques meurtrières perpétrées par les islamistes somaliens. Cette nuit, une vingtaine d'assaillants ont pris d'assaut un campement d'ouvriers près de Mandera, à la frontière avec la Somalie. Selon la Croix-Rouge, au moins 36 personnes ont été tuées. Certaines victimes ont été égorgées et décapitées. Les Shebab ont revendiqué ce massacre qui a eu lieu peu après une autre attaque contre un bar dans la ville de Wajir qui avait fait un mort et 12 blessés. En fin novembre, dans cette même région, les Shebab avaient intercepté un bus et exécuté froidement 28 passagers non musulmans.
Nouvelle attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 civils ont été tués la nuit dernière à Eringeti, dans le nord Kivu. C'est ce qu'indique l'AFP. Un assaut attribué aux rebelles ougandais ADF. Les autorités locales affirment que l'armée a cependant repoussé les assaillants. Rappelons qu'en octobre, 24 personnes ont été massacrées à l'arme blanche dans cette localité.
Hommage aux martyrs de la révolution au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux victimes tuées lors du soulèvement d'octobre. Plus sur cette cérémonie en seconde partie d'émission avec le reportage de notre correspondant sur place.
Au Zimbabwe.
Le congrès de la ZANU-PF a débuté ce mardi pour 2 jours de travaux à huis clos. Robert Mugabe doit prononcer le discours d'ouverture jeudi avant les séances publiques prévues jusqu'à samedi. D'après l'AFP, les 12 000 délégués devraient sans surprise reconduire leur chef charismatique à la tête du parti. Mais les ténors du parti, conscient que leur président a désormais 90 ans, joue en coulisses une partie serrée pour préparer sa succession qui mènera inévitablement le vainqueur au poste de chef de l'État. Plusieurs d'entre eux viennent d'être évincés pour avoir été trop proches de la vice-présidente Joyce Mujuru, qui semble avoir perdu une bataille d'influence contre la première dame, Grace Mugabe, âgée de 49 ans. L'épouse du président a en effet accusé sa rivale de corruption et la presse gouvernementale est allée jusqu'à la soupçonner d'avoir comploté pour attenter à la vie de Mugabe. Joyce Mujuru semble pour l'instant hors-jeu, ayant été évincée du comité central du parti. Au premier jour du congrès aujourd'hui, des tracts ont circulé dans la ville de Harare, distribués par des activistes appelant à un vote de défiance contre le président Mugabe.
Voilà, petite erreur technique de notre part. Hein. Et comme vous l'avez entendu, le parti du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980 est en congrès, un conclave capital pour l'avenir du pays. Le congrès a eu lieu quelques jours après une spectaculaire purge qui a vu l'éviction de plusieurs poids lourds.
Raid aérien à Zouara, dans l'ouest de la Libye. 7 personnes, dont 5 travailleurs étrangers, ont été tuées et 25 autres blessés dans cette ville contrôlée par des milices. C'est ce qu'a indiqué un responsable local à l'agence France-Presse. opération menée par les forces pro-gouvernementales.
En Tunisie, le premier parlement depuis la révolution de janvier 2011 a pris ses fonctions aujourd'hui. Le parti anti-islamiste constitue la principale force au parlement, mais il devra composer avec les autres partis pour dégager une majorité absolue et constituer un gouvernement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les députés français ont adopté une résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. 339 parlementaires ont voté pour et 151 contre. Extrait du débat à l'Assemblée nationale française présidé par Claude Barthelone, c'est le député François Loncle qui a introduit cette résolution.
Nous invitons l'Assemblée nationale à voter notre résolution au nom de la justice, au nom du droit, au nom de la paix.
Merci, Monsieur François Loncle. Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Christian Jacob.
À l'heure où nous parlons, où des groupes terroristes continuent de prôner la disparition d'Israël, votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle. Elle va mettre de l'huile sur le feu dans une région du monde qui n'en a pas besoin.
La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI.
La France a soutenu en 2011 la légitime reconnaissance de la Palestine par l'UNESCO puis comme État observateur à l'ONU en 2012. Mais faut-il rappeler, mes chers collègues, la reconnaissance formelle d'un État reste l'apanage exclusif du chef de la diplomatie et du président de la République.
Ce texte adopté par l'Assemblée française a une portée symbolique car il n'engage en rien le gouvernement français. Hanan Achraoui, une dirigeante palestinienne, a salué ce vote et appelle le gouvernement français à le traduire en acte. Pour l'ambassade d'Israël à Paris, le vote des députés français va éloigner les possibilités d'arriver à un accord de paix.
En Syrie, le bilan de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad, déclenché il y a 4 ans, est dramatique, avec plus de 200 000 morts, la moitié de la population déracinée et un pays en ruine. Claire Morin-Gibourg.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a annoncé aujourd'hui avoir comptabilisé 202 354 décès depuis le début du conflit, dont plus de 63 000 civils et 10 000 enfants. Un bilan certainement plus élevé selon l'OSDH. Fin 2013, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme avait dénoncé de graves violations des droits humains, avec notamment le viol de femmes emprisonnées ou utilisé comme bouclier humain. Ce bilan se double d'une grave crise humanitaire avec la réapparition de la polio dans le nord du pays, où la tuberculose, la typhoïde et la gale sont à nouveau endémiques. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, on dénombre 6,5 millions de déplacés et le nombre de réfugiés dans les pays voisins a dépassé les 3 millions. Selon des experts, le conflit a fait revenir l'économie du pays à 3 décennies en arrière, car la moitié de la population est au chômage et la majorité des infrastructures sont détruites.
Le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi demandera mercredi à la coalition internationale anti-djihadiste réunie à Bruxelles la création d'un fonds de reconstruction pour les zones ravagées par les combats contre le groupe État islamique. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un communiqué de son bureau. Monsieur Abadi s'est envolé ce mardi pour Bruxelles, où il devait informer ses alliés des derniers développements en Irak.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé ce mardi à des élections législatives anticipées après avoir limogé 2 ministres importants des centristes opposés à une partie de sa politique. Il s'agit du ministre des Finances Yair Lapid, figure du centre droit, et la ministre de la Justice Tzipi Livni, qui incarne le centre gauche. Des élections anticipées qui pourraient se tenir début 2015. La Knesset, le Parlement israélien donc, commencera demain l'examen d'un projet de loi de dissolution, une procédure qui pourrait s'achever le jour même ou lundi, selon la radio publique israélienne.
Ici aux États-Unis, les législateurs républicains continuent d'attaquer le président Barack Obama pour avoir décidé par décret la législation de près de 5 millions de sans-papiers, la légalisation, pardon, de ces sans-papiers. Lors d'une audience mardi à la Chambre basse, le député Michael McCaul du Texas avertit que cette mesure va encourager plus d'immigrants à essayer d'entrer illégalement sur le territoire américain, ce que rejette le secrétaire à la sécurité intérieure, Jay Johnson, qui a défendu la légalité du décret sur l'immigration, mais aussi son possible impact positif sur l'économie.
Et toujours aux États-Unis, le secrétaire à la justice, Eric Holder, va dévoiler des directives visant à mettre fin au profilage racial en réponse au meurtre d'un adolescent noir non armé par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri. Alors que les nouvelles directives s'appliqueront uniquement aux organismes fédéraux, elles contribueront, a-t-il ajouté, à codifier notre engagement envers les normes les plus élevées en matière de police. Eric Holder a fait l'annonce à Atlanta, où il rencontrait lundi des représentants des forces de l'ordre et les dirigeants communautaires. C'est la première d'une série de réunions régionales sur l'amélioration des relations entre les communautés à majorité noire et hispanique et les forces de police locales.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Diriac et Chérubin Dorsil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe à la partie magazine de notre émission. Et nous mettons le cap sur le Burkina Faso, Gabi.
Les Burkinabés ont accompagné ce mardi au cimetière de Gouguen à Ouagadougou 6 des 24 personnes tuées lors de la révolte populaire des 30 et 31 octobre qui a mis fin à 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Ces victimes ont été élevées au rang de martyrs du Faso, mais est-ce suffisant, se demande-t-on à Ouagadougou? Une procédure judiciaire sur les causes de leur mort n'est-elle pas envisageable? Des réponses dans ce reportage de Zoumana Wonogo.
C'est sur un porte-char drapé aux couleurs nationales que les corps ont été amenés à la place de la Révolution, où les attendait une foule nombreuse, avec à sa tête le président de la transition. L'émotion est montée d'un cran quand le maître de cérémonie a commencé la lecture de la liste des victimes. Écoutons.
Cette cérémonie va concerner 6 des 24 victimes de ce jour désormais historique. Il s'agit de Aoud Edri Ouébidoua Arsène, né le 13 mars 1970, Karambiri Gaston, né le 31 décembre 1979, Touba Yempabou Fabrice Aristide, né le 2 septembre 1983, Béré Inoussa, né le 11 novembre 1992. Belem Abdul Boubarak, né le 6 janvier 1996. Sama Issa, né le 6 octobre 1997. Le septième corps n'a toujours pas été identifié à l'heure actuelle. D'autres ont déjà été enterrés.
S'en est alors suivi l'office religieux avec les trois religions, musulmanes, catholiques et protestantes. Suivant la parole du pasteur Yé. La voix pleine de spleen, le représentant des familles des martyrs a dit ceci.
Les familles de victimes,
par ma voix,
vous dit merci.
Merci de vous joindre à nous pour rendre cet hommage tant attendu à nos frères et à nos fils. Faussés par les balles assassines de Blaise Compaoré et ses compagnies. Assoiffés et aveuglés par le pouvoir et donc les mains sont tachées de sang de ces vaillants peuples.
Hommage et reconnaissance de la nation, oui. Mais ne doit-on pas ouvrir des enquêtes sur les causes de la mort de ces martyrs? Écoutons ce qu'en dit Zéphirin Diabré, il est l'ex-chef de file de l'opposition.
Oui, je pense qu'il serait indiqué que, en tout cas, on essaie d'examiner les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles ces décès ont eu lieu. C'est vrai que c'est une insurrection, mais on peut aussi quand même regarder les circonstances. Et s'il y a des responsabilités établies, à situer, on ne doit pas hésiter à le faire. On est bien entendu très éploré et très triste de voir des combattants de la liberté qui étaient à nos côtés le 30 et le 31, fauchés de cette manière-là par le destin.
Laurent Ouédraogo de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina est plus direct sur cette question de justice. Suivant.
Tous ces martyrs doivent ressentir dans leur tombe qu'ils sont morts pour une cause juste. Et pour qu'ils le ressentent ainsi, il faut qu'il y ait la justice. Que tous ceux-là qui ont dit de tirer sur le peuple pour protéger leur pouvoir et tous ceux-là qui ont exécuté ces ordres-là soient identifiés, soient appréhendés et traînés devant les tribunaux de notre peuple pour que justice soit rendue. C'est la seule condition de notre point de vue, pour dire que ces dizaines de morts là ne sont pas morts pour rien. C'est la seule condition, de notre point de vue, pour qu'on tourne réellement la page sombre du pouvoir de la 4e République dans notre pays.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Procès sur l'assassinat de Floribert Tchebeya en République démocratique du Congo. Il y a plus d'une année et six mois que les audiences ne se tiennent plus. Les parties civiles avaient saisi la Cour suprême de justice pour inconstitutionnalité de la procédure à l'égard de trois prévenus en fuite. Mais la Cour suprême s'est déclarée incompétente en renvoyant les parties devant la haute cour militaire. Les parties civiles entendent éviter que les prévenus en fuite, une fois condamnés, n'aillent en cassation. Un reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Maître Didier Dimina, avocat de la défense, affirme que les partis civils cherchent à paralyser le bon fonctionnement de la justice.
Nous avons été au premier degré devant la cour militaire. Celle-là même qui avait choisi de venir devant la justice, à un certain moment, ont claqué la porte pour abandonner cette procédure parce que semblait-il qu'elles ne trouvaient pas leur compte. Arrivé au niveau de la haute cour militaire, c'est le même scénario, cherchant à paralyser le bon fonctionnement de la justice. Ils vont jusqu'à soulever des questions, soi-disant, d'inconstitutionnalité, alors qu'il n'en est rien, devant la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice, cherchant à se prononcer sur la question pour lui poser, les mêmes parties qu'il avait saisies tentent, encore une fois de plus, de dire à la Cour suprême de ne pas se prononcer, soi-disant qu'elle n'est incompétente. Mais la Cour suprême a réglé cette question en disant que tant que la Cour constitutionnelle n'est pas encore établie, c'est la Cour suprême de justice telle qu'elle est là dans sa formule actuelle qui continue à siéger même en matière d'inconstitutionnalité.
La Cour suprême de justice, dans son arrêt rendu au mois d'août dernier, a renvoyé toutes les parties devant la haute cour militaire, tout en se déclarant incompétente de statuer sur les litiges. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga dénonce cet arrêt qui viole, selon lui, la loi.
L'arrêt de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle est un arrêt sujet à controverse qui amène les spécialistes de la procédure de se poser la question si les juges eux-mêmes avaient lu toutes les lois qui devraient justifier leurs compétences. En effet, il ressort clairement de l'article 83 alinéa 3 du Code judiciaire militaire que, toutefois, le recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la haute cour militaire sont portés devant la Cour suprême de justice siégeant comme cour constitutionnelle. C'est là à se poser la question, est-ce que le juge de la Cour suprême de justice avait lu le Code judiciaire militaire? S'il l'avait lu, est-ce qu'il pouvait se déclarer incompétent? Perte du temps, nous ne pensons pas.
Il reste à la haute cour militaire de fixer l'affaire. Entre-temps, les prévenus, dont le colonel Daniel Mukalai, demeurent en détention 4 ans après les faits. Kinshasa, Cyril Milandou, Top Congo FM pour la Voix de l'Amérique.
La Défense souhaite que les audiences reprennent afin que les juges se prononcent une fois pour toutes. Floribert Tchebeya et son chauffeur Fidel Bazana ont trouvé la mort le 2 juin 2010 à Kinshasa.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le Cameroun dit recruter plus de 20 000 soldats et policiers pour lutter contre Boko Haram suite à des rapports affirmant que les salafistes nigérians recrutent des jeunes Camerounais. Moki Edwin Kinzeka a tendu son micro à des officiels à Yaoundé. Son reportage nous est présenté par Nathalie Barge.
Le sénateur Paul Aman, originaire du nord du Cameroun, a confirmé à la Voix de l'Amérique que les salafistes recrutent des jeunes près de la frontière nigériane.
That was something that we witnessed with our eyes in Marwa.
Nous avons vu cela à Maroua. La population nous a dit rencontrer des gens en ville qui leur étaient totalement étrangers. Lorsque vous constatez qu'une partie du pays est dans une situation très délicate, mieux vaut gérer la prévention et les faits plutôt que les conséquences. Un député du nord du Cameroun, Sali Derou, a déclaré la semaine dernière que Boko Haram avait saisi du bétail d'éleveurs camerounais le long de la frontière avec les États nigérians de Borno et de l'Adamawa.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Et personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf. Et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Selon le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, la menace posée par Boko Haram a conduit de nombreuses personnes à fuir des zones frontalières.
C'est la région de l'extrême nord qui paye le plus lourd tribut. Plusieurs écoles sont restées fermées depuis la rentrée scolaire. Nombre de nos compatriotes ont abandonné leurs champs de culture ainsi que leurs pâturages.
L'activité économique du nord du Cameroun est complètement paralysée à cause des salafistes nigérians, ajoute le ministre.
Le prix du carburant frelaté importé du Nigeria et très utilisé localement est régulièrement en hausse avec ses répercussions sur l'ensemble de la chaîne économique. Divers services publics, parapublics, privés, ainsi que des entreprises commerciales sont paralysés par les membres de la secte Boko Haram. Les échanges commerciaux avec le Nigeria ont nettement reculé.
Un constat confirmé par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mebengo, soulignant que les atrocités commises par le groupe terroriste ont conduit plus de 30 000 villageois à s'éloigner de la frontière.
Boko Haram mène des actions ponctuelles, commando, d'assassinat par égorgement public de certains notables et dignitaires. Ces assassinats visent à punir les honnêtes citoyens convaincus de coopérer avec l'administration et visent également à accentuer dans toutes les localités frontalières le climat de psychose.
Le Cameroun échange des renseignements avec le Nigeria, le Bénin, le Tchad et le Niger et travaille également avec les États-Unis, la France, la Chine et l'Allemagne dans un nouvel effort régional africain contre les extrémistes armés.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur la pandémie du sida qui continue notamment d'affecter l'Afrique subsaharienne. Pour beaucoup d'ONG, l'urgence de la crise Ebola ne doit pas reléguer la lutte contre le sida. Vos commentaires sur la page Facebook de la VOA ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h PU sur VOA Afrique.
Cet autre constat accablant concernant l'épidémie d'Ebola, la propagation de la maladie a un impact néfaste sur la prestation de services de santé pour les personnes souffrant d'autres maladies dans les pays gravement touchés par l'Ebola. C'est le constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé, le compte-rendu de Genève de Lija Schlein, présenté ici par Bagessi Koura.
Selon l'OMS, l'une des causes profondes de la propagation rapide du virus Ebola en Afrique de l'Ouest est la faiblesse des systèmes de santé des trois pays fortement infectés. Le virus Ebola a tué environ 7000 personnes, mais le coordinateur des systèmes de santé de l'OMS, Gerard Smets, soutient que la mort de nombreuses autres personnes qui souffraient du paludisme et d'autres maladies chroniques peut probablement être liée à l'épidémie. Il affirme qu'Ebola a endommagé la prestation des services généraux en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Par exemple, il note que les travailleurs de la santé qui s'occupent des patients d'Ebola ne sont plus disponibles pour travailler dans les centres de soins de santé ordinaires. Il soutient aussi qu'Ebola a perturbé les services importants tels que les programmes de vaccination.
For example, pregnant women.
Par exemple, les femmes enceintes n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. Elles n'ont pas accès aux centres de santé, tout simplement parce que ces centres sont fermés, parce que nous n'avons plus de personnel dans ces centres de santé. En Guinée, par exemple, les consultations générales et le taux d'hospitalisation ont baissé de 50%.
Dr. Smith fait remarquer que les systèmes de santé dans ces trois pays étaient déjà mal en point bien avant l'épidémie d'Ebola. Par exemple, avant Ebola, la Sierra Leone comptait 0,2 médecins pour 10 000 habitants contre 2,5 dans le reste de l'Afrique et 14 médecins pour 10 000 habitants dans le reste du monde.
So
nous avons clairement besoin de nous concentrer sur la lutte contre Ebola. Nous avons clairement besoin de nous concentrer sur la reconstruction des services généraux, mais nous avons aussi besoin de nous concentrer pour bâtir un système résilient, à le rendre plus fort pour résister aux futures épidémies ou aux catastrophes à l'avenir.
L'Organisation mondiale de la santé organise une réunion la semaine prochaine à Genève, réunion axée sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays touchés. Les grandes institutions financières, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, participeront de même que les ministres de la Santé, des Finances du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée.
Et on va parler de sport, toujours avec Bagassi Koura. On en sait un peu plus sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2015.
Oui, à l'issue de sa réunion du 1er décembre 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a adopté la procédure du tirage au sort de la phase finale de la 30e édition prévue en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février. Les 16 équipes qualifiées ont été réparties en 4 groupes en fonction du classement de la CAF établi sur la base de leurs performances respectives lors des 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations, les phases finales donc, et des éliminatoires de Cannes 2012, 2013 et 2015. Les résultats obtenus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 ont également été pris en compte, Chérubin. Et dans le groupe 1, on aura Guinée équatoriale, Ghana, Côte d'Ivoire et Zambie. Dans le groupe D, on aura le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie et l'Algérie. On retrouve en troisième position le Ghana, le Cap Vert, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Gabon. Et dans le groupe 4, Guinée, Sénégal, RDC et RD Congo et Congo-Brazzaville.
Et Mario Balotelli qui fait à nouveau parler de lui.
Oui, il a donc posté un message sur les réseaux sociaux qui a été mal interprété, puisque ce message était censé lutter contre le racisme de façon humoristique, mais qui utilisait des stéréotypes racistes et antisémitiques. Je m'excuse et si j'ai offensé quelqu'un, a déclaré sur Twitter l'attaquant italien de Liverpool. C'était un message d'humour contre le racisme, a poursuivi Balotelli. La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête et Balotelli encourt jusqu'à 5 matchs de suspension.
Et bonne nouvelle concernant le roi Pelé.
Oui, 5 jours après avoir alarmé le monde entier sur son état de santé, la légende du football brésilien, Pelé, âgé de 74 ans, a quitté ce matin les soins intensifs et aurait même déjà demandé sa guitare pour jouer, cher Robin.
Voilà qui est très très bien, Bagassi. Et puis quelques résultats de la Ligue Pro de basket nord-américaine.
Voilà, donc il faut souligner que hier soir, Denver a eu raison de Utah, 103 à 101. Philadelphie est tombée face à San Antonio, 103 à 109. Washington a battu Miami 107 à 86 et les Los Angeles Clippers ont également dominé Minnesota 127 à 101. Et Chérubin, les San Antonio Spurs ont eu raison de Philadelphie, donc 109 à 103.
Et quand nous disons la Ligue nord-américaine, nous parlons bien sûr de la NBA. Merci Bagassi Koura.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. David Guetta, artiste de la mondialisation. À 47 ans, il a su parfaitement faire le lien entre la musique et ce qu'aiment les gens. Les Américains en sont convaincus. Dès l'hebdo de l'industrie musicale Billboard au magazine de culture pop Rolling Stone, on s'accorde à écrire qu'il rassemble toutes les qualités du producteur, faiseur des hits et magicien des pistes de danse. On écoute ce soir en featuring avec Usher dans Without You.
I can't win, I can't reign, I will never win this game. Without you, without you, without you, without you, without you, without you, I am lost.
David Guetta a commencé sa carrière comme DJ. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 30 millions de disques vendus à travers le monde depuis 30 ans.
Without you, without you.
Morgan. C'était David Guetta et Usher dans Without You.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Morgan.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Yemi Obadjimi à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction.
Et à la présentation, chez Ruben Dorsil.
Et Morgane Diriec.